Chapitre 70. Pompée à Mytilène se trouvait encore trop près de Pharsale. Il continua sa route sans s'arrêter dans les ports, excepté pour y faire de l'eau et y prendre des vivres. La première ville où il fit halte fut Attalie, dans la Pamphylie. Là, 5 ou 6 galères le rejoignirent. Elles venaient de la Cilicie et lui permirent de reformer quelques troupes. Il eut même bientôt auprès de lui 60 sénateurs. C'était un noyau autour duquel se rassemblèrent les fugitifs. En même temps, Pompée apprit que sa flotte n'avait reçu aucun échec et que Caton, après avoir recueilli un grand nombre de soldats, était passé en Afrique. Ce fut alors qu'il se plaignit à ses amis et se fit à lui-même les plus vifs reproches d'avoir livré la bataille avec sa seule armée de terre, laissant oisive sa flotte, qui faisait sa principale force, ou du moins, de ne s'être pas fait un refuge de sa flotte au cas d'une défaite sur terre. Cette flotte, à elle seule, lui eut rendu à l'instant même une armée plus puissante que celle qu'il eut perdue. Forcé d'agir avec les seules forces qui lui restaient, Pompée essaya au moins de les augmenter. Il envoya ses amis demander secours dans quelques villes. Il alla lui-même dans d'autres pour recruter des hommes et équiper des vaisseaux. Mais, en attendant que chacun lui tînt les promesses qu'on venait de lui faire, connaissant la célérité des mouvements de César, la promptitude avec laquelle celui-ci était accoutumé d'user de la victoire, craignant de le voir apparaître d'un moment à l'autre et de n'avoir pas même le moyen de lui résister, il se mit à chercher quel lieu du monde pourrait lui offrir un asile. Ses amis furent assemblés et l'on tint conseil sur ce sujet. Lui, Pompée, parmi tous les royaumes étrangers, choisissait celui des Parthes. C'était, selon lui, la puissance la plus propre à le protéger, à le défendre et même à lui donner des troupes pour reconquérir sa position perdue. Mais on lui fit observer qu'à cause de sa grande beauté, Cornélie ne serait point en sûreté chez ces barbares qui avaient tué le jeune Crassus, son premier époux. Cette raison détourna Pompée de prendre le chemin de l'Euphrate. Puis, ne faut-il pas que les destins s'accomplissent ? Un ami de Pompée fit la proposition de se retirer près du roi Numide Juba et de rejoindre Caton, qui, nous l'avons dit, était déjà en Afrique avec des forces considérables. Mais Théophane de Lesbos insista pour l'Égypte et pour les Ptolémées. L'Égypte n'était qu'à 3 journées de navigation et le jeune roi Ptolémée, dont Pompée avait rétabli le père sur le trône et qui était lui-même pupille de Pompée, avait à celui-ci de trop grandes obligations pour ne pas se faire le plus dévoué de ses serviteurs. Le mauvais génie de Pompée fit prévaloir cette dernière proposition. En conséquence, Pompée partit de Chypre avec sa femme sur une galère de celle-ci. Les autres personnes de sa suite montaient des bâtiments longs ou des navires marchands. La traversée fut heureuse, la laine de la mort poussait les vaisseaux. Les premières informations prises apprirent à Pompée que Ptolémée était à Péluse et faisait la guerre à sa sœur Cléopâtre. Pompée se fit précéder par un de ses amis, chargé de prévenir le roi de son arrivée et de lui demander, au nom de Pompée, un asile en Égypte. Ptolémée, qui avait 15 ans à peine, était depuis 2 ans le mari de sa sœur Cléopâtre, qui en avait 19. Cléopâtre, en vertu de son droit d'aînesse, avait voulu exercer l'autorité, mais les confidents de Ptolémée avaient excité une sédition contre elle et l'avaient éloignée. Voici quel était l'état des choses au moment où arriva le messager de Pompée. Les confidents de Ptolémée qui avaient chassé Cléopâtre étaient un eunuque, un rhéteur et un valet de chambre. L'eunuque se nommait Potin, le rhéteur Théodote de Quillot, le valet de chambre, Achillas. Ce respectable conseil fut réuni pour délibérer sur la demande de Pompée. La délibération et la décision furent dignes de l'assemblée. Potin était d'avis que l'on refusât l'hospitalité à Pompée. Achillas était d'avis qu'on le reçût. Mais Théodote de Quillot, trouvant une occasion de faire briller sa science de rhéteur, posa ce dilemme. Il n'y a aucune sûreté dans l'un ou l'autre des deux avis. Recevoir Pompée, c'est se donner César pour ennemi et Pompée pour maître. Renvoyer Pompée serait, si Pompée reprenait jamais le dessus, se créer de ce côté-là une haine mortelle. Le meilleur parti, selon l'orateur, était donc de faire semblant de le recevoir et de le tuer, tout simplement. Cette mort, continua l'honorable orateur, obligera César. Puis, ajouta-t-il en souriant, les morts ne mordent pas. Cet avis réunit tous les suffrages et Aquilas fut chargé de son exécution. En conséquence, il prit avec lui deux Romains, nommés Septimius et Salvius, qui avaient été autrefois l'un chef de cohorte, l'autre centurion sous Pompée. On leur adjoignit 3 ou 4 esclaves et l'on se rendit à la galère de Pompée. Tous ceux qui montaient cette galère étaient réunis sur le pont et attendaient une réponse au message envoyé à Ptolémée. On s'attendait à voir venir au-devant de l'illustre fugitif la galère royale elle-même, et on la cherchait au loin des yeux. Aussi, lorsque, en place de cette galère, on aperçut une misérable barque montée par 7 ou 8 hommes, ce mépris parut suspect à tout le monde, et il n'y eut qu'une voix pour conseiller à Pompée de gagner le large pendant qu'il en était temps encore. Mais Pompée était au bout de ses forces comme au bout de sa fortune. « Attendons, dit-il, il serait ridicule de fuir devant 8 hommes. » Alors le bateau s'approcha et Septimius, reconnaissant son ancien chef, se leva et le salua du titre d'impérator. En même temps, au nom du roi Ptolémée, Aquilas l'invitait en grec à passer de la galère sur le bateau, la côte étant vaseuse et la mer hérissée de bancs de sable n'ayant pas la profondeur nécessaire à son bâtiment. Pompée hésitait, mais sur ces entrefaites, on voyait arriver les vaisseaux de Ptolémée et ses soldats se répandre sur le rivage. Était-ce pour faire honneur à Pompée? On pouvait le croire. D'ailleurs, au point où l'on en était arrivé, montrer de la défiance, c'était fournir soi-même aux assassins l'excuse de leur crime. Alors Pompée, embrassant Cornélie, qui pleurait d'avance sa mort, ordonna à 2 centurions de sa suite, à Philippe, un de ses affranchis, et à un de ses esclaves, nommé Séné, de monter les premiers. Et comme Aquilas lui tendait la main de dessus le bateau, il se retourna vers sa femme et son fils, prenant congé d'eux par ces 2 vers de Sophocle. « Quiconque marche vers un tyran et son esclave, quand même il eût été libre en s'approchant de lui. »